Ok, bien. Écoutez, on est parti pour quelques minutes pour parler de référencement ou d'un sujet un peu particulier dans le référencement. D'abord, on va faire un mini tour de salle. Quelles sont les personnes dont l'audience naturelle est la première source d'audience sur le site? Je sais qu'il n'y a pas que des e-commerçants dans la salle, il y en a beaucoup. Que 4? C'est-à-dire que les autres font plein de publicité ou alors qu'ils sont très très mauvais en référencement. Mais et les autres dont la première source, c'est de la publicité? Ou les autres n'ont pas d'audience. Bon, on va essayer. Alors, si c'est pas de la pub, c'est pas du SEO, c'est quoi alors?
Non, c'est du référencement naturel.
Ah, d'accord. Réseaux sociaux. D'accord. Par quoi on va commencer? Donc l'idée, c'était de parler d'un sujet autour du référencement. Alors le référencement, vous en entendez parler tous les jours. Il y a des articles qui sortent de partout. Si vous allez sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça ou beaucoup, beaucoup de ça, avec des choses des fois très complexes. Je vais essayer d'aborder un sujet qui est relativement simple, mais qui est pour moi le plus fondamental en SEO et qui est sûrement le plus efficace. C'est comment on fait aujourd'hui pour améliorer son SEO, qu'on soit e-commerçant ou qu'on ait un site de marque ou qu'on soit dans le B2B. L'idée est la même parce qu'on ne fait pas de distinction. Après, il y a des objectifs qui ne sont pas les mêmes et à la sortie du tube, il y a du chiffre d'affaires ou il y a des leads, mais après, peu importe ce qu'il en sort. L'idée, c'est de zoomer sur un point particulier du SEO qui est le linking, en l'occurrence, dont on parle relativement souvent, et d'expliquer en quoi ça peut être vraiment différenciant en termes de performance et en quoi ça fonctionne, comment ça peut faire fonctionner votre site. Donc, est-ce que c'est l'arme fatale du référencement? En fonction des personnes à qui vous allez parler de référencement, il y en a qui vont dire c'est le contenu, d'autres qui vont dire c'est la structure technique de votre site, d'autres qui vont dire c'est le linking, d'autres qui vont dire c'est les partages sociaux. Vous allez avoir des avis très divers et très variés qui seront tous justes peut-être à un instant donné, mais quand on regarde de façon sur du long terme et de façon statistique, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus vraies que d'autres et qui sont plus fondamentales. Si on revient en arrière par rapport au fonctionnement de Google, ce qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement de Google historique, c'est-à-dire que depuis le début, depuis 20 et quelques années, on ne voit pas bien les trucs, mais c'est que Google classe les sites en fonction de leur popularité. Alors, il y a plein de choses dont on parle aujourd'hui sur des mises à jour, je vais en parler un tout petit peu après, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un classement par rapport à des notions de popularité. L'histoire et l'historique de Google, c'est ça. Et aujourd'hui, quand on entend parler des mises à jour, des mises à jour core, j'en parlerai un tout petit peu, il y a plein de choses qui évoluent dans les SEO tous les jours. Mais par contre, ce système est fondamental dans l'algorithme de Google et il est toujours sous-jacent. Il y a des évolutions permanentes, mais en tout cas, le moteur de recherche classe toujours d'une manière ou d'une autre les sites par popularité. Avec plein d'autres signaux, on dit qu'il y en a 200, je ne saurais pas vous les citer, mais dans tous les cas, ce qui sous-tend le classement dans Google, c'est cette notion de popularité. Alors après, on verra que tous les liens ne se valent pas et que tout ne fonctionne pas. On a eu beaucoup, et encore ces jours, il y a des mises à jour des algorithmes de Google. Il y en a tous les mois, il y en a X par an. Je ne saurais pas vous les citer, je ne saurais même pas vous les expliquer dans la réalité, parce que la dernière qui a été publiée ces dernières semaines, ces dernières mois, Berthe, alors on essaie d'expliquer ce que c'est, mais quand on essaie de comprendre ce que ça veut dire concrètement dans une pratique SEO pour un e-commerçant, eh ben, amusez-vous à comprendre quelle est la conclusion, ce qu'il faut tirer, est-ce qu'il faut produire ses contenus différemment, parce qu'il faut comprendre l'intention des utilisateurs, est-ce qu'il ne faut plus faire de liens ou encore faire des liens. On a en fait des outils qui sont limités pour actionner son SEO en fait. Dans vos mains, de e-commerçant, de webmaster, vous avez un nombre d'outils qui sont limités. Et après, comprendre, et ça vibre, c'est que ça commence à monter là. On sent qu'il y a une traction, qu'il y a un truc, ça se passe bien. Donc toutes ces mises à jour, elles sont importantes, mais allez comprendre ce que vous devez faire derrière, ou même avec une agence spécialisée comme nous, eh ben c'est extrêmement compliqué et tout ça change tout le temps. Et alors, je lisais en début d'année sur LinkedIn des gens qui expliquaient que le SEO allait vraiment dans le bon sens, c'était plus de qualité, plus de transparence, la fin des magouilles. Et en fait, ces articles-là, je les lisais déjà en 2010. Alors moi, ça fait 21 ans que je fais du SEO. Donc je les ai moi-même écrits, ces articles. Et quand je reprends ce qu'ils étaient, tous les ans, on a les mêmes histoires, c'est plus de qualité, c'est plus de contenu, on n'écrit plus pour Google, mais on écrit pour les utilisateurs. Moi, j'ai du mal à saisir ces trucs-là et j'ai essayé de comprendre en fait quels étaient les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est malgré tout, les mises à jour de l'algo sont connues, mais elles ne sont pas compréhensibles. Enfin, c'est impossible, sauf cas très particulier, d'en tirer des conclusions activable pour votre site e-commerce ou pour votre site. Par contre, il y a un autre truc qui change en permanence, c'est la SERP. La SERP, c'est Search Engine Result Page. On appelle ça la SERPologie, la science de la page de résultat. Ça, ça change en permanence. Et contrairement à l'algorithme, bah, si vous prenez votre page, vous voyez ce qui change. Alors nous, alors aussi, on développe des robots qui vont aller dans Google, enregistrer toutes ces informations-là et essayer de nous les mettre en perspective. Donc, c'est assez facile de suivre ça et c'est assez facile d'en tirer des actions. Parce que si on dit maintenant, il y a des positions zéro sur tel sujet, ou alors on a du Google Maps, ou alors on a des chaînes YouTube, ou on a des People Also Ask, des suggestions, ça, on est capable de le mesurer et on est capable d'en tirer des conclusions activables. C'est-à-dire, pour être à tel endroit, il faut avoir ce type de contenu parce qu'on est capable d'identifier les spots et la typologie des contenus qu'il faut créer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut activer. Par contre, si on doit résumer ces histoires de qualité, d'éthique par rapport aux updates, c'est impossible. La seule chose qui ne change jamais en SEO, c'est que vous voulez être le premier et que vous voulez faire descendre vos compétiteurs. Ça, c'est un truc de base. Et en fait, quel que soit le changement d'algorithme, vous avez toujours la nécessité de travailler dans cette optique-là. Et c'est sur la page de résultats qu'on va travailler et pas par rapport à des sujets d'algorithme que la plupart des personnes ne saisissent pas ou ne sont pas capables de comprendre. Ce qu'on propose, nous, en fait, c'est un outil qui s'appelle TrackFlow, qui s'appelle Data Garden, qui va enregistrer en fait autour d'un champ sémantique toute la concurrence, tout ce qui se passe dans les pages de résultats et qui va mettre en perspective toutes les opportunités qu'on peut avoir de création de contenu, ce qui permet ensuite de créer des contenus qui sont vraiment spécifiques à votre secteur, pas parce que les gens le recherchent, mais parce que Google le met en avant et que les gens vont finir par le trouver. Alors, contrairement à ce que j'ai déjà fait, on travaille non pas pour les utilisateurs, pas pour Google, mais pour les utilisateurs, mais en fait, on va adapter la production de contenu à ce que Google va afficher. Si demain, Google va mettre des vidéos, on en parlait il y a deux secondes, va mettre des vidéos dans ses résultats, en fait, on va faire des vidéos. Pas parce qu'on a envie de faire des vidéos, mais parce que Google, dans ses résultats, quand on tape un mot-clé, va sortir des vidéos. Donc, on va s'adapter à ça. Donc, on s'adapte toujours à Google en essayant de se dire que c'est pour l'utilisateur parce qu'au final, il y a des utilisateurs derrière. Mais en fait, la réalité, il ne faut pas se mentir, c'est qu'on se bat contre Google en permanence et on essaye de faire en sorte de se battre avec Google et en plus de battre ses compétiteurs. Ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais et on est toujours dans des évolutions. Les algorithmes, c'est du détail. Ce que nous dit Google et ce que nous disait Google historiquement, c'est que pour que ça fonctionne bien en SEO, ça pareil, c'est des propos qu'on a toujours eu et qu'on a toujours, c'est que il y a trois types de… On fera passer, si vous voulez, les slides. Hein, vous pouvez les prendre en photo, il n'y a pas de souci, mais on les fera passer. Et en plus, vous avez le livre blanc qui reprend ces éléments-là. C'est que les liens, globalement, font partie d'une stratégie SEO. Donc, un lien, c'est un site web, globalement, ou une plateforme web qui pointe vers un autre site web ou vers une autre plateforme web. C'est la base du web, c'est de passer d'une page à l'autre à partir d'un lien HTML. C'est le truc le plus fondamental et le plus con quand on démarre à faire une page HTML. On fait un contenu, ensuite on fait un lien pour aller vers une autre page. Donc, en fait, les liens, Google nous dit que ces liens, avoir des liens qui pointent vers son propre site, c'est bénéfique pour son référencement. Mais par contre, que en faire de façon volontaire pour manipuler et pour battre Google pour améliorer son référencement, c'est quelque chose qui c'est pas bien et qu'il ne faut pas faire. Donc on est dans le dilemme suivant, c'est les liens, je dis toujours les liens c'est bon pour votre référencement, n'en faites pas parce que ça pourrait améliorer votre référencement. Donc si vous avez un contenu fabuleux dans le domaine de la plongée, du chocolat ou de recrutement, naturellement les gens vont faire des liens vers votre site. Sauf que dans la réalité, les internautes ne sont pas des webmasters, c'est-à-dire que les gens qui voient vos contenus super cool, ils n'ont pas forcément de blog, ils n'ont pas forcément de site vers lequel faire des liens, et la probabilité que vous ayez naturellement des liens qui pointent vers votre site, elle est relativement modeste ou quasiment nulle si vous êtes dans un secteur B2B par exemple, ou alors vraiment exceptionnel. Google ne sait pas se passer des liens pour classer les sites, donc on peut considérer que n'importe quel lien peut être considéré comme artificiel. Ce qui va faire qu'on va le considérer, Google va le considérer comme artificiel ou frauduleux, c'est la façon dont ça va être fait et la volumétrie dans laquelle ça va être délivré. Et les mises à jour de Google qui sont les plus faciles à comprendre, notamment il y en a une qui s'appelait Google Penguin il y a quelques années, il y en a qui ont tiré les conclusions puisqu'ils n'avaient pas compris ce que je disais tout à l'heure, pas compris le sens du sujet, c'est-à-dire Google ne dit pas qu'il faut arrêter de faire des liens, Google avoue que les liens c'est son point faible et que c'est sa façon de classer les sites web. Donc, ceux qui le font de façon abusive, ils les déclassent d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui s'est passé il y a 7-8 ans. Mais ce n'est pas la fin des liens. C'est au contraire la consécration des liens. Si tu le fais vraiment bien, c'est comme ça que tu vas faire tomber Google et c'est comme ça que tu auras des résultats. Donc, aujourd'hui, encore aujourd'hui en 2020, et c'est pour ça que le livre blanc que vous avez dans les mains, je l'ai écrit en 2011. Alors pas celui que vous avez dans les mains, mais la première version, je l'ai écrit en 2011, 6 mois avant Google Penguin. Il est sorti juste en 2012, on a juste eu le temps de faire une V2 à ce moment-là, sauf que ce qui était dedans était toujours juste, et on le fait évoluer chaque année, c'est la cinquième ou sixième version, mais le fond du sujet, en fait, c'est le même qu'il y a presque 10 ans. Et ça fonctionne toujours, et c'est l'oublier ou ne pas penser à ce sujet-là, c'est passer à côté du sujet essentiel du SEO. Donc, il faut faire des liens. Par contre, il y a une façon de le faire et il y a une sorte de seuil de tolérance sur lequel il ne faut pas dépasser. Et après, ce seuil de tolérance, il est marqué nulle part. Google ne le communique pas, évidemment. Vous allez voir un webmaster, il va vous dire c'est 10. Vous allez voir une agence, ils vont vous dire c'est 100. Vous allez voir un autre, il va vous dire c'est 10 000. La seule réalité, c'est de voir ce qui se passe sur votre marché et comment ça se passe chez les autres. Donc, quand est-ce qu'on doit démarrer une stratégie de netlinking, ce qu'on appelle de netlinking? Ça, on le précise aussi, c'est à un moment donné, vous allez avoir un site web pour qu'il soit bien référencé dans Google. Vous avez toujours trois types d'éléments à travailler de façon très synthétique et très simple. Vous avez d'une part des aspects architecturaux, c'est-à-dire la façon dont a été développé votre site web, la façon dont Google va pouvoir indexer les pages, la façon dont il va pouvoir aller crawler l'ensemble des contenus qui sont sur les pages. Alors, que ce soit WordPress, que ce soit PrestaShop, Magento ou Salesforce, peu importe, les pages seront indexables ou ne seront pas indexables. Il y a des outils qui sont plutôt favorables, qui sont plutôt simples, mais n'importe quel outil, on va dire, tuné par quelqu'un qui est spécialiste de ça, peut être totalement et correctement indexé. Ça demande plus ou moins de temps et du coup plus ou moins de ressources. Ça, c'est la partie technique et architecturale. Et ensuite, la deuxième partie, et je ne rentre pas dans le sujet technique, c'est les contenus qui vont être présents sur votre site web. Alors quand je dis contenu, c'est du contenu textuel, ça peut être des images, ça peut être des vidéos dans certains cas, mais ça s'arrête souvent à ce type de contenu. Puis après, il y a tous les extraits enrichis qu'on va pouvoir trouver, l'encodage du site, tout ce qu'on appelle les rich snippets qui vont pouvoir monter dans un résultat. Mais globalement, il faut que vos pages soient riches en contenu, que vos pages de contenu soient aussi possible de meilleure qualité que celles de vos concurrents. C'est quelque chose d'assez subjectif, mais il y a des éléments objectifs qui nous permettent de le mesurer et de l'évaluer. Mais globalement, si vous avez fait ça, vous allez vous retrouver. Oh, bah, donc, ça ne fait pas grand-chose. Votre SEO on-page, donc la technique et le contenu, vont vous permettre d'avoir des résultats, en vrai, à peu près corrects. À peu près correct. Sauf que le à peu près correct, quand on a une page qui contient que 7 résultats, 4-15 sponsorisés, une position 0 du shopping, bah le à peu près correct en 8e position ou 10e position, c'est à peu près invisible. Donc ce n'est pas suffisant. Et il faut aller plus loin. Et la façon d'aller plus loin, c'est d'aller au-delà. Parce que alors, ce qu'il faut savoir aussi, je le dis toujours, c'est que vous avez pris PrestaShop parce que ça vous semblait une bonne solution, mais vos concurrents, ils ont pris aussi PrestaShop. Et vous avez pris une agence SEO parce que ça vous a semblé être une bonne solution, mais vos concurrents ont pris une aussi bonne agence SEO, voire une meilleure. Donc le fait d'avoir fait bien les choses, ce n'est pas suffisant en fait. Ça ne suffit pas. C'est même largement insuffisant aujourd'hui et il faut aller au-delà. Et le au-delà, si on reste sur des aspects purement SEO, c'est d'aller chercher des liens d'une manière ou d'une autre pour faire en sorte que Google comprenne que votre contenu est meilleur que celui de vos concurrents. Ce que je suis en train de dire, je le disais déjà il y a 5 ans, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Si vous êtes, et je le disais déjà il y a 10 ans, si vous êtes dans un domaine concurrentiel, et je suis sûr que si vous êtes ici, vous l'êtes tous. Concurrence, ça peut être grosse concurrence ou ça peut être moyenne concurrence. Mais moyenne concurrence, ça reste de la concurrence et les autres ont les mêmes moyens. C'est des petites boîtes qui se battent entre petites boîtes ou des grosses boîtes qui se battent en grosses boîtes, ou peu importe. Mais il y a toujours de la concurrence et il y a très peu de cas aujourd'hui et ça fait bien longtemps qu'on ne voit plus ça. On est dans un domaine où il n'y a pas de concurrence. Ce qui va faire la différence entre le WordPress de votre concurrent et le vôtre, ben, c'est pas grand-chose. Le contenu, ça peut être des choses très différentes. Mais en général, ça coûte très cher de faire du contenu. Donc, il y a peu de sociétés qui vont très très loin sur ces sujets, même si c'est vraiment, ça aurait pu être un point important aujourd'hui dont j'aurais pu parler, mais ce n'est pas mon sujet. Le contenu reste la base, en fait. C'est-à-dire que je dis linking, c'est ce qui amène la performance. Mais si vous n'avez pas travaillé ces contenus-là, ce que je suis en train de dire, ça, en fait, voilà, j'aurais dû dire ça comme ça. Si vous avez ça, ça et ça, vous pouvez faire du linking, vous allez pouvoir chercher de la performance. Si vous ne l'avez pas fait, ce que je suis en train de dire, ça ne sert à rien parce que le linking que vous ferez ne servira à rien du tout. C'est de l'argent perdu ou du temps perdu. Donc pensez à ça, c'est que c'est des choses qui sont cumulatives et le fait d'aller chercher des liens ou d'améliorer son référencement, on commence par 1, puis 2, puis 3. Et le linking, c'est le 3. C'est pas un premier. Donc faut pas se tromper de sujet. Par contre, si vous avez une limitation technique pour des raisons X ou Y, votre site est trop compliqué, trop vieux, au-delà de, et que vous ne voulez pas le refondre à court terme, les faiblesses techniques peuvent être compensées à la marge par du linking un peu plus fort parce que vous allez surdoser un levier versus un autre. Donc ça, après, ça peut se discuter, mais par contre, il y a quand même des fondamentaux qu'il ne faut pas traiter. Dans quel cas je dois aller chercher des liens pour améliorer mon référencement, sachant que les liens, comme je disais tout à l'heure, si vous étiez bon, arriverait tout seul, mais comme vous ne l'êtes pas, ils n'arrivent pas tout seul. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Ou alors quand ils arrivent tout seul, c'est que vous avez payé en général quelqu'un ou quelque chose. C'est assez rare qu'on ait des liens naturels. À quel moment il faut aller essayer d'aller chercher des liens? À quel moment il faut vraiment faire des efforts là-dessus? Sur des mots-clés et sur des topics ou sur des contenus qui ont un potentiel de trafic, de contact et de vente qui sont élevés. C'est-à-dire que si vous êtes dans un domaine où un mot-clé, un type de contenu dont le potentiel d'audience est limité, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'argent que vous mettrez là-dedans, je parle d'argent, mais temps ou argent, c'est exactement la même, c'est le même sujet, ça ne sert à rien. Donc si la compétition sur le mot-clé, elle est élevée et que par ailleurs, donc la compétition élevé ou pas élevé, et que le potentiel de business est élevé, c'est la seule chose qui fera la différence. Par contre, si le potentiel, la compétition, elle est moyenne ou faible, et que le nombre de contacts, il est relativement faible, c'est pas forcément nécessaire de faire du linking. On peut faire autre chose. Et là, ça va plus être sur des stratégies de contenu particulières. Vous vendez des pneus, votre mot-clé c'est pneus, il y a toute la planète qui se bat dessus, ça coûte 10 balles du CPC, pas d'option. Hier j'étais chez Air France, on parlait billets d'avion, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez en face l'Iligo, vous avez même Google en face de vous. Si vous ne faites pas ça, vous passez à côté de votre sujet. Donc compétition élevée avec revenu élevé à ce moment-là, c'est le cœur du sujet. Donc ça veut dire que si vous avez 100 mots-clés à travailler, vous n'allez pas faire du linking sur 100 mots-clés, vous allez faire le linking sur les mots-clés sur lesquels vous avez vraiment envie d'être, soit pour des raisons commerciales, c'est le produit que je vends le plus, soit pour des raisons politiques. Mon patron, il veut être présent sur ce mot-clé parce que ça représente sa boîte et c'est moins de business, mais par contre, il faut que j'y sois. Donc, les mots-clés sur lesquels on travaille sont un pool de mots-clés qui sont limités. Ça peut être 10, ça peut être 100, mais ça ne peut pas être 1000 ou sinon, c'est quasiment impossible à réaliser. Donc, à ce moment-là, on va mettre en place une stratégie de linking. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir avant de démarrer, c'est qu'il faut auditer son univers concurrentiel, savoir si c'est compétitif ou pas, savoir s'il faut y aller ou pas et se faire accompagner. Il faut qu'il y ait un socle technique sur votre site qui soit bien réalisé, c'est un facteur de réussite, que la richesse éditoriale de votre site soit au moins au niveau des autres, mais dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit 10 fois meilleure, vos contenus soient 10 fois meilleurs que les autres. Et la question du linking ne se poserait pas dans les mêmes termes parce que là, naturellement, vous auriez des liens. Si vous avez vraiment des contenus exceptionnels, ça se ferait tout seul. La réalité, c'est que vous ne l'avez pas. Et le netlinking ne doit pas être dissocié ou un élément à part. Il est dans une stratégie SEO. Et si vous allez sur notre site, il est aussi dans une stratégie de communication et de relations presse en ligne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des liens qui sont issus d'une stratégie de communication type relations presse. Tout ça est un écosystème, en fait. Ces liens-là, type relations presse dans l'article, n'auront pas forcément un impact important pour votre SEO. Mais par contre, ils vont rentrer dans un écosystème et Google va considérer que c'est quelque chose de naturel. Je vais venir à ces aspects-là. Les bons liens font la différence pour atteindre les sommets. Qu'est-ce qu'un bon lien? Donc, un bon lien, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a 1000 façons de faire des liens. Il y en a des bien, enfin des pas bien, après c'est subjectif, mais nous on considère que pour qu'un lien soit bon, il faut qu'il soit plongé dans un contenu. Plongé dans un contenu, c'est-à-dire que si vous vendez du chocolat ou si vous vendez du recrutement, ce n'est pas les mêmes supports et ce n'est pas les mêmes sites. Donc, un contenu qui soit plus ou moins proche de votre secteur d'activité. Et là, on parle, je ne sais pas de quoi on parle, fenêtres en aluminium, si je vois bien de quoi on parle. On a un site qui parle de la maison moderne et on dit que pour faire des fenêtres, il faut faire des fenêtres en aluminium. Et le lien, il part de ce truc-là vers la page d'un client. Ça, on est typiquement dans un spot où Google va dire, tiens, de quoi on parle là-dedans? Matériaux d'encadrement des portes, blabla, des fenêtres, et puis là-dessus, il y a un lien qui va vers une société qui s'appelle Kaline. Ah bon, bah c'est cohérent, et puis ça va vers la page porte d'entrée en alu. Tiens, c'est cool. Et puis ça va te faire une fois, deux fois, trois fois. C'est, on va dire, un lien qui est correctement contextualisé historiquement. On va faire des liens dans des annuaires ou des trucs comme ça. Globalement, ce sont des choses qui ne servent à rien. Ça peut permettre d'avoir un lien. Si vous démarrez que vous n'avez rien, ça peut être le début, mais aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est que ça ne fait pas 3 semaines que vous faites du e-commerce, ça ne fait pas 3 semaines que vous avez un site, vous allez avoir la nécessité de trouver des liens qui soient qualitatifs. Donc, il y a différents types de liens qui peuvent venir de différents médias, sites de communiqués de presse, annuaires, ça, c'est des trucs vraiment à l'ancienne qu'on peut faire, mais qu'on ne vous recommandera pas de faire. Ça n'empêche pas de les faire. Si vous êtes très bon, les liens vont venir tout seuls vers vous, linkbaiting. Vous avez fait vos contenus, les gens vont partir de leur blog ou sur les médias sociaux. Alors, on le trouve ce schéma dans le livre blanc normalement. Je vous dis, je vous interdis pas de faire des photos, mais vous trouvez tout ça et ça sera en meilleur. Des commentaires dans des blogs, des partenariats commerciaux. Vous avez des partenaires avec lesquels vous travaillez, vous êtes présent sur une commune, vous êtes à Lyon, bah, vous allez chercher l'annuaire des entreprises lyonnaises ou la mairie tel endroit et vous allez obtenir un lien. Quand vous êtes Pôle emploi, bah, toutes les mairies de France font un lien vers le site de Pôle emploi par exemple. Donc c'est plutôt cool de bosser pour Pôle emploi sur ces sujets-là. Donc il y a différents types de liens. Par contre, si vous revenez à ce que je disais avant, bah, les meilleurs liens vont se trouver dans un endroit où on va trouver du contenu contextualisé. Donc l'annuaire, pas très cool. Contenu dans les blogs, c'est intéressant. Communiqué de presse, ça l'était, mais aujourd'hui, ce n'est pas des sites qui sont recommandés. Relations presse en ligne, ça peut être intéressant. Mais ensuite, quand on va parler à un journaliste pour dire fais-moi le lien de telle façon, le journaliste il va dire attends, je suis journaliste, je ne suis pas en train de te faire ta pub, ton truc. Donc, en général, on s'en va, on dit rien. Et puis après, partenariats commerciaux, eh ben c'est vous avez un partenariat avec un fournisseur et vous dites, ben moi, je vends le store locator ou des choses comme ça. On va pouvoir retrouver des liens qui vont vers votre site. Après, qu'est-ce qui est important dans les liens que vous allez trouver et comment vous devez évaluer ou comment nous, on évalue les liens. Donc le lien, il est contextualisé, donc il est dans la thématique, vous êtes dans la maison, dans la plongée, vous n'allez pas faire le même type de support et le même type de lien. Vous allez pouvoir faire un lien sur un site de sport extrême, par exemple, ça va être plausible. Si vous vendez des fenêtres en aluminium, vous mettre sur un site de déco ou un site qui parle de l'aménagement de la maison ou de l'environnement ou comment faire des économies d'énergie. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Un des points importants aussi, pour pas que ça soit trop coûteux et trop long dans le temps, c'est que si les liens durent dans le temps, c'est quelque chose qui est plutôt favorable, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, c'est quelque chose qui va vous produire des effets dans le temps, au pire, le plus long possible. Ce qui se passe souvent, c'est que les liens perdent leur effet quand vous faites votre fonte et que vous ne faites pas les redirections. Donc l'idée, c'est de trouver des liens qui durent dans le temps et que vous soyez en mesure de les faire durer le plus longtemps possible. Le nombre de backlinks issus d'un site. C'est-à-dire que si vous avez fait un partenariat avec Itis Commerce et qu'Itis Commerce sur toutes leurs pages, ils en ont 500, ils fassent un lien vers Cybercité, ben vous allez avoir un site qui fait 500 liens. Ça, c'est ce qu'on appelle le ratio domaine backlink. Ben, ça, c'est des choses à surveiller. Là, j'ai récupéré un site il n'y a pas très longtemps qui avait 1 million de backlinks. Il y en a, on va dire, trois quarts qui partaient d'un seul site. J'allais dire, l'intérêt, il est faible. Ça peut être quelque chose potentiellement négatif, mais enfin. Même si ce n'est pas négatif, ça n'a pas grand intérêt. Vaut mieux avoir 4-5 liens qui partent d'un site que 500, et vaut mieux avoir 4 bons liens que 500 à partir du même truc. Donc il y a des notions de ratio qu'il faut surveiller. Et après, l'encre qui va partir d'un site, c'est-à-dire que le lien qui va partir d'un site vers un autre, il va contenir des mots-clés dans le codage HTML. Bah, si possible, cette encre doit contenir le mot-clé qui nous intéresse ou le lien de la page de destination. Si par contre, vous ne faites votre encre que sur un même mot-clé, à un moment donné, ça peut paraître un peu louche. Donc, il faut qu'il y ait des encres variées. Donc, quand vous avez un lien, le lien con de base, quand vous commencez ou quand vous commenciez le web en 1999, le lien, c'était marqué « Cliquez ici » ou c'était marqué « Pôle emploi » et on cliquait sur ce truc-là. Je pense que Pôle emploi, c'est un client, donc c'est pour ça, mais c'est pas… C'est pas marrant. Donc souvent cliquer ici. Donc il faut qu'il y ait du cliquer ici, voir le site, en savoir plus sur ce truc-là, vous cliquez dessus. Et puis après, vous avez Itis Commerce, vous allez trouver prestataire e-commerce, solution PrestaShop. Donc en fait, vous allez avoir différents types de liens et différents types d'encres qui vont partir vers une même page, mais il faut essayer de les diversifier. Si vous avez toujours marqué PrestaShop, PrestaShop, PrestaShop vers votre page PrestaShop, tous vos partenaires, bah, à un moment, Google va dire, tiens, c'est bizarre, c'est pas naturel, ça ne se passe pas comme ça dans la nature du web. Et un des points qui est important, parce que tout ça, je suis en train de le dire, en disant si ça se passe bien et c'est cool, il faut le faire de cette façon-là, dans une optique de naturel. C'est-à-dire que si vous le faites, si ça se fait naturellement, vous allez naturellement avoir des liens qui vont être marqués cliquez ici. Vous allez naturellement avoir des liens qui durent longtemps, qui sont dans un contenu qui est proche du vôtre. Hein, parce que j'allais dire, l'exemple que je donnais, si vous faites des fenêtres en alu, ce n'est pas un site de sport extrême qui va parler de vous, c'est un site de décoration. Donc tout ça, c'est pour apparaître dans un cadre qui est naturel. Et il y a un des points importants aussi, c'est que, sauf cas particulier, gros coup de communication, les liens n'arrivent pas tout seuls d'un coup. Donc il y a une notion de régularité, de linéarité qu'il faut adopter. Tout ça, c'est si ça se passe naturellement. Et nous, quand on met en œuvre une prestation de linking, on le fait de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on le met dans des contenus qui sont proches de la thématique, on le fait de façon régulière. Si on dit qu'il faut faire 100 liens, ça peut arriver, mais 100 liens, ce n'est pas 100 liens en un mois, c'est 100 liens en un an, c'est 100 liens en 6 mois. Après, ça va dépendre d'où on part, comment on est. Si vous avez déjà 10 000 liens qui pointent vers aussi faire les 100 liens, ça peut se faire en 3 mois, parce que vous avez déjà un portefeuille. Si par contre, vous démarrez et que vous avez les 3 liens, celui d'Itis Commerce, celui de la mairie et point barre, j'allais dire, il va falloir que vous ayez celui de vos profils sociaux, celui de Facebook, celui de LinkedIn. Il y a des choses de base que tous les sites doivent avoir avant d'aller plus loin. Donc, il y a une notion de naturalité qui est importante. Donc, il faut faire varier toutes ces choses-là dans le cadre d'une technique qui est artificielle, mais qui doit s'inspirer de la façon dont ça se passe dans la vraie vie du web qui n'existe quasiment plus. Il n'y a plus de web sauvage, c'est que de l'élevage. Pour connaître la qualité des liens, des outils que vous pouvez retrouver sur le marché, qu'on cite aussi, vous avez Ahrefs ou Majestic par exemple, qui vous permettent d'avoir une indication de la qualité des liens. C'est des outils qui sont payants, mais qui ne sont pas très coûteux. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, ça vous permet de savoir avec les gens avec qui vous travaillez s'ils vous proposent des liens qui sont qualitatifs ou pas. Donc, la façon dont on procède, et quand on démarre une opération de linking, c'est de la façon suivante. C'est que déjà, on va regarder d'où vous partez. Vous avez 0 lien, donc on ne fait pas d'audit. Ça fait 10 ans que vous faites du web, ben on va déjà voir qui est passé avant nous, vous, une autre agence, parce que vous pouvez avoir des choses qui ont été faites en 2008, en 2009, qui aujourd'hui sentent vraiment mauvais et qui sont soit neutres, soit nocives. Donc ça, ces choses-là, il faut les identifier pour après se demander pourquoi le SEO ne fonctionne pas. C'est qu'il y avait des choses qui ont été faites par le passé qui posent problème aujourd'hui. On va regarder aussi où sont vos concurrents, comment ils font des liens, ceux qui sont premiers sur votre thématique, ben, où est-ce qu'ils ont été trouver leurs liens, est-ce que c'est des choses nous sur lesquelles on peut travailler ou alors c'est du privatif, on est dans le domaine du privatif. Ensuite, on va mettre en place une stratégie, définir une stratégie de linking en fonction d'où vous partez, nombre de liens, volumétrie, toujours dans l'optique de dire on aura choisi les mots-clés les plus pertinents par rapport au volume de business que vous espérez retrouver. Est-ce que c'est matériel de plongée, est-ce que c'est pneus, est-ce que c'est agence immobilière? Donc on va définir les expressions prioritaires par rapport à votre business et définir les pages qui vont être les pages de destination de ces mots-clés-là. On va ensuite choisir des supports. Donc les supports, c'est les sites web sur lesquels on va soit faire des demandes. Ben, tiens, s'il te plaît, j'ai un site de plongée, tu veux pas faire un article sur mon site, il est génial. Le taux de réussite de ce genre d'action est proche de zéro, mais c'est toujours bien d'essayer, ça fait toujours plaisir de penser que ça peut fonctionner comme ça. Si vous êtes une marque vraiment super cool, les gens vont l'accepter, mais il faut vraiment que ce soit vraiment super cool et super fun. Et si vous êtes une marque super riche, ben, les gens vont l'accepter moyennant finance, ce qui est strictement interdit par Google, comme tout ce que je suis en train de vous décrire ici. On va démarcher des éditeurs, on va planifier ensuite la publication des liens en disant je veux avoir des liens sur tel mot-clé à tel moment. Si vous faites ça de façon purement itérative en disant tiens, ton site il est cool, je veux m'inscrire, est-ce que tu peux me faire telle chose? On ne gère ni la planification ni la réussite, mais ça peut permettre d'obtenir parfois des liens qui sont intéressants. Après, il y a une notion de coût qui va rentrer là-dedans, dont je vais parler un petit peu après. Le fait d'aller soi-même contacter des éditeurs, contacter des propriétaires de sites web pour avoir des choses, ça peut permettre d'obtenir des liens quasi gratuits. Par contre, il faut y passer 4-5 jours. Donc, quand je dis 4-5 jours, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc, des fois, ça vaut le coup de payer 50, 100, 200 ou 1000 euros un lien, parce qu'on est sûr de l'avoir à un moment donné avec ce qu'on a exactement demandé, plutôt que d'y passer 10 jours à essayer d'avoir des choses qu'on n'aura finalement, globalement, jamais. Publication, on va optimiser les liens existants si on en a. Ensuite, il faut que le contenu dans lequel le lien soit plongé soit pertinent aussi. C'est-à-dire que si le site lui-même est visité, bah, autant donner une information. Si on parle de sa marque ou de ses produits, autant que les contenus qui sont autour soient qualitatifs. Donc ça, c'est un des points importants. Ensuite, on publie. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de la thématique, on va mesurer les résultats qu'on produit linking. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, Google pénalisait les gens qui faisaient des stratégies linking un peu trop offensives. Aujourd'hui, on considère, en tout cas, on constate et on considère qu'il n'y a plus trop de ce type de choses de pénalité. Par contre, on peut faire des liens sans que ça fonctionne. C'est-à-dire que Google les ignore. Donc, on a passé beaucoup de temps. Alors, soit on va dire que Google les ignore, soit c'est quelque chose qui a été mal fait avant. Contenu, technique, où les liens ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les choses dans le bon ordre. Si par contre, nous, on a fait une étude, parce que pour vous donner un ordre d'idée, je ne vais pas vous donner le nom, mais on produit ce type de choses dans des quantités qui sont vraiment industrielles et vraiment en grande quantité. Dans 85% des cas, ça fonctionne. C'est-à-dire que si c'est fait dans les quantités nécessaires, on en parlera un tout petit peu après, et de la bonne façon, ça donne des résultats d'augmentation du positionnement dans les résultats de Google, dans la quasi-totalité des cas. Quand ça ne fonctionne pas, donc nous on se pose la question, alors déjà nos clients nous tapent dessus, et quand ça ne fonctionne pas, ben on va regarder pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est toujours lié à deux choses. C'est soit que, à ce moment-là, audit du profil de lien, on n'a pas vu qu'il y avait d'autres liens qui étaient néfastes, et on s'est mis à faire des liens par-dessus, et en fait ça ne peut pas fonctionner parce que le site il a des vis aux 4 pieds et il ne bougera pas, tant que ces liens seront en place. Problème d'audit, problème ensuite de quantité. Je vais être sur le mot-clé pneu. Tous mes concurrents ont 500 liens collés aux fesses et moi je vais en mettre 50 et en fait je comprends pas, ça fonctionne pas. Ça en général, on le sait à l'avance, on le dit et le client veut quand même essayer. Et avant il dit mais je comprends pas, je dis ben en fait on t'avait dit qu'il n'en fallait pas 10 mais il en fallait 100. C'est une question de budget, hein. C'est une question de dosage. Ou alors ça peut être une question de dilution, c'est-à-dire que j'ai pris trop de mots-clés, trop de pages de destination avec trop peu de liens. Donc c'est toujours une question de dosage. Alors, question de stratégie. On a mal évalué quelque chose au début. Question de dosage mal dosé, ou alors mes contenus et mon site ne sont pas bons et je pourrais en faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois plus, ça ne servira jamais à rien. Dans 85% des cas, ça fonctionne et ça amène des résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon profil de lien, c'est un profil de lien naturel. Donc, c'est-à-dire que si on est amené à publier des liens sur des sites web XY, il faut que ça soit de façon régulière, il faut que ça soit de façon diffuse, il faut que ça apparaisse dans des sites qui ne soient pas dédiés qu'à votre site. Et par exemple, si vous faites un blog, on a des clients qui se sont dit, tiens, je vais trouver des liens, ils font un blog, ils écrivent leur truc, et dans tous les articles, ils font un lien vers leur produit. Bah, j'allais dire, c'est pas utile parce que le ratio domaine backlink, il sera défavorable et l'utilité du dernier lien produit, elle sera nulle. C'est comme dans les stratégies de contenu. Plus vous allez publier des contenus, moins le contenu que vous allez publier va être intéressant. Donc, il vaut mieux se concentrer sur des très gros contenus qui font la base de votre audience plutôt que de dire il faut que je publie tout le temps, il faut que je fasse des actifs, il faut que je fasse des choses. Parce qu'en fait, le gain additionnel de ce qui se passe à la fin, le gain marginal, il est proche de zéro. Ça vaut pour le contenu et ça vaut pour le linking si c'est mal fait. Donc, on est plutôt dans une logique d'écosystème. J'ai des bons liens, j'ai des moins bons liens, j'ai des choses très chères, parce qu'à un moment donné, il y a une notion de coût, d'autres qui ne coûtent rien parce que je les ai gratuitement. Tout ça doit paraître naturel. Il y a des liens qui viennent des médias sociaux. Puis après, si j'ai effectivement une stratégie de contenu et qui est qualitative, ben, il va quand même y avoir une petite émulation, il va y avoir des partages sur éventuellement des plateformes sociales, sur du Pinterest, sur des choses qui peuvent avoir un petit impact, en gros un petit signal envers Google qui est plutôt positif. C'est-à-dire si je n'ai que des liens qui procèdent de sites et j'en ai aucun qui viennent des médias sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les utilisateurs ils kiffent pas mon contenu et qu'ils ne le partagent pas, donc mon contenu il n'est pas bon. Donc Google se sert de l'ensemble de ces signaux. Après, on ne connaît pas la valeur exacte de chacun des trucs, mais ça ne peut pas venir que d'une seule chose. Donc tout ça doit paraître naturel et quand on fait une stratégie de linking, il y a aussi aussi bien du Pinterest que des outils de curation qui sont des liens faciles à obtenir que des liens très compliqués ou beaucoup plus agressifs. Tout ça procède en fait à quelque chose de naturel et c'est un système, c'est une notion d'écosystème. Après, le coût du lien. Si je vous dis, ben, il te faut 10 liens à 1000 euros, on va dire, bon, il faut que je réfléchisse, faut que je vois. Mais il peut y avoir tout à fait des liens à 100 euros, à 200 euros, d'autres à 1000 euros. Il faut voir comment ça s'intègre dans une stratégie globale et des liens gratuits qui viennent de vos plateformes sociales, de présentation de votre entreprise. Ça, c'est des choses qu'il faut faire absolument et qui sont nécessaires. Donc, c'est un écosystème plutôt qu'un prix et une variation. Le résultat, parce que au final, c'est bien beau de parler, mais la seule chose que vous voulez savoir, c'est si ça fait des résultats. Je l'ai dit, on mesure avec Data Garden l'évolution des positions de nos clients sur des mots-clés qu'on a définis ensemble en amont. Et ce qu'on se rend compte, c'est que à partir du moment où on commence à diffuser des liens, ça fait vibrer le site, ça fait vibrer la page. Je dis vibrer, c'est en général à la hausse. Ça peut être à la baisse à un instant donné. Et ensuite, quand on commence à se mettre à accélérer, ben comme par enchantement, ça continue à monter jusqu'à la position qui nous intéresse. En général, c'est la position 1, c'est la position 2, en fonction de qui est devant. Vous distribuez une marque, vous distribuez des Rolex. La probabilité que vous soyez premier sur Rolex, devant Rolex, elle est quand même relativement modeste. On travaille pour quelqu'un à Lyon qui vend des montres Rolex d'occasion. Ben, quand il est collé derrière Rolex, c'est déjà un résultat qui est ouf et il est très content de ça. On sait qu'on ne peut pas passer premier. Mais par contre, on met en place du linking pour arriver dans la situation qui est la plus favorable, dire les gens ont vu la Rolex, après ils vont chercher à l'acheter et on est les premiers à proposer ce site-là. Une fois qu'on a obtenu des résultats, ce n'est pas terminé. Parce que les autres que vous avez dépassés, parce que ce que j'ai dit au début, c'est que le truc de base qui ne change jamais, c'est que vous voulez toujours être devant votre concurrent, ben, en fait, votre concurrent, il veut aussi être devant vous, il a aussi une agence, et bien lui, il va commencer à mettre des pièces dans la machine, il va commencer à jouer. Et si vous n'entretenez pas ce que vous avez commencé à mettre en place, ben il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui va le faire de façon différente, de façon plus forte, et il va vous distancer. On a eu le cas sur les montres de luxe, là dont je parlais quelques minutes, pendant des années, contenu super top, structure technique vraiment bien faite, on a toujours eu des résultats exceptionnels et puis un jour ça a commencé à se casser la gueule. Ça faisait 2-3 ans que je disais, c'est bien de faire un petit peu de lien pour entretenir, tout va bien, tout se passe bien, j'ai quelques partenaires publicitaires, j'ai des liens. Et ben un jour il y a un Allemand qui est arrivé, sauf que quand ils s'en sont rendus compte, et ben ils avaient un an, ça faisait un an et demi que les gens bossaient, que ça ne faisait rien et d'un coup ça s'est mis à fonctionner et ils se sont fait atomiser. Ils se sont dit, oh, ils ont plus de moyens. Je dis, non, ils ont juste travaillé depuis 2 ans ou 2 ans et demi ce qu'on te disait de faire, sauf que maintenant, on a 2 ans de retard parce qu'on ne va pas tout diffuser d'un coup, on ne va pas pouvoir faire les cochons. Et ben après, on rame. On arrive à remonter des positions, mais par contre, si on s'est fait prendre trop de distance, c'est compliqué à rattraper. Ce que je dis souvent quand on est e-commerçant, c'est que notre principal ou un de nos principaux concurrents, ça peut être Amazon. Et vous constaterez avec moi que c'est difficile de dépasser Amazon ou de battre Amazon. Peut-être que quelqu'un a un exemple qui va dans l'autre sens. Par contre, si Amazon est présent sur des millions de mots-clés, vous n'avez besoin d'être présent que sur 1, 2 ou 3 bons mots-clés. Et souvent sur un e-commerce, 1, 2 ou 3 bons mots-clés très bien positionnés, ça fait le job et ça fait le business. Alors, si vous avez 20 000 produits, c'est peut-être réducteur, mais ça n'empêche que vous savez être très fort là-dessus. Et avec un bon contenu et une bonne stratégie de linking, il est possible de battre mano mano, il est possible de battre Amazon. Actuellement, on s'amuse sur un de nos clients qui s'appelle Culligan, qui vend des adoucisseurs d'eau. Et sur les mots-clés adoucisseurs, ils sont premiers devant Leroy Merlin ou devant Mano Mano. Mais par contre, on a un champ qui est Mano Mano doit être présent sur des millions de mots-clés. Nous, on est présent sur des dizaines ou des centaines de mots-clés. Par contre, sur le mot-clé cœur du business qui est adoucisseur d'eau, on est systématiquement devant Mano, devant Amazon, devant Leroy Merlin. Par contre, on ne mise que là-dessus. Quand on fait des liens, on ne va pas se dire, je vais mettre sur des vilains liens qui sont dans 50e dans ma liste. Je suis vraiment au cœur de mon sujet et je suis capable de battre les plus forts. Je ne pourrais pas les battre sur la totalité, mais je peux me battre avec eux. Pour vous donner un exemple de performance, avant, après linking, sur un site e-commerce qui vend des croquettes. Alors j'ai vérifié les résultats tout à l'heure, ils sont à peu près les mêmes que ceux-là. Quand on met une opération linking, on considère qu'il faut entre 0 et 6 mois, enfin plutôt 6 mois pour le temps de définir, le temps de mettre en place, de diffuser, parce qu'on ne diffuse pas tout d'un coup. Là, sur un croquet de chat, qui est un gros mot-clé, en l'occurrence croquet de chien, croquet de chat, on part fin de troisième page, donc autant dire en enfer. Et à 6 mois, on arrive sur des positions milieu de première page. Sur un nombre de liens qui est de l'ordre, sur chaque mot-clé, c'est du 15 à 20. Donc ce n'est pas des millions de mots-clés, ce n'est pas des millions de liens, ce n'est pas des centaines de liens, c'est quelques dizaines de liens. Le dosage est vraiment important et en fonction d'où vous partez, on sera capable de vous dire ben, à peu près dans cette thématique, je dis à peu près parce que je ne mens pas avant, à peu près dans cette thématique, au regard de ce qui se passe, la densité concurrentielle, de ce que font vos concurrents, si vous ne faites pas 5, 10, 15, 100 liens, vous n'arriverez pas à faire quelque chose de suffisant. Là, on arrive à ce type de choses. Sur des mots-clés, je ne sais pas ce que c'est, thématique immobilière, est-ce qu'il y a des agents immobiliers dans la salle? Bon, je peux dire ce que je veux. Si, y en a, non. Les agents immobiliers, leur intérêt, ce n'est pas de vendre des appartements ou des maisons. Nous, ça fait très longtemps que vous allumiez, c'est d'avoir des mandats. Donc le seul objectif de l'agent immobilier, c'est que quand vous vendiez, vous adressiez à lui. Parce que l'acheteur, il l'a toujours. Ça se vend tout seul, en fait. Un appartement, que vous êtes à Lyon, que vous êtes à Écully, la maison, elle se vend du jour au lendemain, quel que soit son prix. Donc le seul job de l'agent immobilier, c'est quelqu'un qui veut vendre, de l'avoir et de le proposer, parce qu'il a tous les acheteurs. Et la principale thématique de l'agent immobilier, c'est de ressortir sur estimation maison, estimation appartement, mandat agent immobilier, des choses comme ça. Et quand vous êtes là-dessus, et ben, tout d'un coup, il y a des gens qui vous appellent pour dire tiens, j'ai une maison, je vais peut-être la vendre. Et une fois que vous êtes là, vous êtes au cœur de ce qui vous intéresse quand vous êtes agent immobilier. Ça vous évite d'aller dans les boîtes aux lettres pour dire aux gens je cherche des biens à vendre, ce que font les agents immobiliers à longueur de journée. Sur les thématiques les plus compétitives, en faisant une centaine de liens sur des mots-clés de ce genre, estimer sa maison, estimation maison, on arrive à être dans les 5 premiers, ou même premiers maintenant sur un ou deux mots-clés. C'est des budgets qui sont ridicules. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais quand vous êtes un réseau d'agents immobiliers, que vous avez 200 agents immobiliers ou 200 mandataires, ou vous avez même 1000 agences immobilières, mettre 15, 30 ou 40 000 euros pour obtenir ces positions, c'est rien du tout en fait. C'est rien du tout. Par contre, ça change la vie des agents immobiliers qui, toute la journée, toute la semaine, réussissent à avoir des leads grâce à ça. Donc, on a vraiment. Si on arrive à avoir un combo entre des beaux contenus là-dessus et une stratégie de linking, on arrive à se mettre devant Se Loger, devant PAP, devant Le Bon Coin. Alors même que là, c'est un beau réseau, mais c'est des mandataires. C'est des mandataires immobiliers. C'est pas une agence qui est là depuis 1000 ans. C'est pas Century 21. Donc on arrive à faire ce type de choses avec un budget qui est substantiel, mais qui est sans commune mesure avec ce que ça peut rapporter derrière. Faire estimer sa maison, mandataire immobilier, deuxième, quatrième mandataire immobilier, c'est plus pour du recrutement, c'est quand les gens veulent recruter des mandataires immobiliers. On est sur des positions qui sont extrêmement favorables. Et ensuite, dans la thématique puériculture, vêtements bébés, on part 21e. Alors, ce que je ne dis pas, parce que c'est mon propos depuis le début, c'est que je pars 21e et entre la 21e et la première position, je n'ai pas changé de site et je n'ai pas changé de contenu. Sinon, ce que je dis, ça moins de sens, c'est-à-dire que c'est l'effet des actions linking qui me permet de passer de la troisième page à la première position sur un mot-clé qui est extrêmement générique et qui peut, si vous vendez des vêtements bébés, être extrêmement rentable en termes de SEO. Doudou bébé, quatrième, je ne sais même pas le client en fait, je ne sais pas de qui je parle. Vêtements naissance, troisième. Je ne vois pas le client, peu importe. C'est quelqu'un qui vend des vêtements bébés, j'imagine, en tout cas, j'espère. Et donc, on arrive sur des contenus qui sont associés à la thématique puériculture enfance, à le mettre au milieu de ces liens-là. Et l'effet, en termes d'audience, il est extrêmement puissant. Là, je vous parle de position, mais derrière, l'audience qui est associée à ces mots-clés, elle est quand même relativement importante et elle peut être extrêmement rentable.